Aujourd'hui, nous sommes avec Thierry Jacquot, éleveur producteur à Bleurville. Vous êtes également secrétaire général de la Confédération paysanne des Vosges. On est là pour parler un peu de la santé, hein, de l'agriculture dans les Vosges à l'occasion de votre assemblée générale. Alors, pour commencer, justement, comment se portent les éleveurs dans les Vosges?
Ah, c'est pas que au niveau des éleveurs, hein, c'est au niveau de toutes les productions. Surtout, dans notre syndicat, il y a beaucoup de producteurs qui sont en bio. Et donc, comme vous le savez, l'agriculture bio va pas trop bien dans notre pays. À cause de beaucoup d'éléments, notamment de la récupération par la bio des grandes surfaces, hein, et donc qui importent des produits européens, mais pas que, du reste du monde aussi. Donc voilà, il y a une concurrence avec les producteurs locaux qui fait que la bio va mal, et qui a aussi une démultiplication de tous les signes de qualité qui perdent en fait les consommateurs et consommatrices. Et aujourd'hui, avec la crise économique qu'on connaît, les consommateurs, consommatrices font plus attention à leur portefeuille et donc achètent peut-être encore des produits locaux, mais plus forcément en bio, quoi. Et il y a surtout une concurrence avec la HVE, la haute valeur environnementale, qui a été mise en place par le ministère de l'Agriculture avec la FNSEA pour promouvoir une autre agriculture, mais en sachant que HVE, ça veut rien dire du tout et que c'est une arnaque aujourd'hui vis-à-vis du cahier des charges qu'on a réussi à faire modifier, mais à la marge seulement.
Pourquoi, selon vous, alors, ce label haute valeur environnementale est une arnaque?
Jusque-là, le cahier des charges de la HVE n'était même pas au niveau des conditionnalités de la PAC. Aujourd'hui, on a réussi à ce que ça soit au même niveau que la conditionnalité des aides PAC, mais ils vont pas au-delà, quoi. Donc, en fait, par exemple, il y avait deux possibilités pour avoir le label HVE. Donc une qui est sur justement la mise en place de façon de travailler plus environnementale. Donc c'était la voie A, et la voie B qui était sur juste un pourcentage de 30% du chiffre d'affaires d'intrants. Donc tous les viticulteurs se sont engagés dans cette voie-là, puisque vu la masse d'argent qu'ils récupèrent, leur chiffre d'affaires, ils dépassent jamais en intrants chimiques, en pesticides, les 30%. Donc ils avaient HVE grâce à ça. Donc c'est une arnaque aux consommateurs. HVE, ça n'a que le nom, haute valeur environnementale, mais c'est tout, que le nom.
Et aujourd'hui, du côté de l'eau, quelle est la situation dans les Vosges? Parce qu'on a eu un été très sec, hein, et maintenant on a pas mal de pluie. Est-ce qu'on doit encore s'inquiéter?
Oui, le problème, c'est l'accumulation de sécheresse à répétition, puisqu'aujourd'hui, toutes les années sont sèches. L'année dernière, en hiver, on a eu un temps gris, mais très peu pluvieux. Donc, c'est pas ça qui a rechargé les nappes, surtout qu'on a plus de neige. Voilà, il y avait un petit peu de neige encore dans l'eau de Vosges, mais c'est très peu par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc les sols s'assèchent beaucoup, les nappes phréatiques diminuent à la vitesse grand V, et surtout les sources, beaucoup de sources s'assèchent. Donc, la problématique est plus grave dans les Hauts-de-Vosges, puisque le sol est filtrant, et donc il y a beaucoup de fermes isolées qui ont leurs propres sources, mais qui aujourd'hui ont des problèmes d'eau. Donc il y a beaucoup de maraîchers dans les Hauts-de-Vosges qui ont des soucis d'eau. Et donc dans la plaine, c'est un petit peu moins vrai, puisqu'il y a un peu de plus de ressources en eau, mais n'empêche que la situation est compliquée partout. On a connu donc un prélèvement d'eau, par exemple à Gérardmer, pour abreuver la population dans le lac directement. Donc la situation est de plus en plus compliquée pour tout le monde. Et l'eau, c'est la vie. Faut qu'il y ait de l'eau partout, notamment dans les sols, mais aussi pour nous, pour boire. Les eaux aujourd'hui, avec le modèle agro-industriel qui a été mis en place suite à la Deuxième Guerre mondiale pour produire une alimentation qui fallait un peu plus nombreuse, un peu plus en quantité. Ma sortie d'après-guerre, ça se comprenait, ce modèle agricole un peu productiviste, mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Donc il faut qu'on revienne sur des bases beaucoup plus en adéquation avec notre milieu de vie, si on veut que que la vie ne s'éteigne pas, enfin, concernant l'homme déjà sur Terre, quoi. Donc, le partage de l'eau est nécessaire. Il faut que tout le monde, toutes les composantes de la société soient réunies autour d'une table et prennent les bonnes décisions concernant un territoire donné. Voilà. Parce que les problématiques que nous, on connaît dans les Vosges, quand même, donc, château d'eau de Blesse de la France et territoire toujours vert et aujourd'hui qu'on connaît tout sec en été, ça fait quand même drôle. Des rivières qui s'assèchent. Donc si on ne change pas de paradigme sociétal, de vivre ensemble et de modèle économique surtout, on n'y arrivera pas, on s'en sortira pas. Toutes les mesures qu'on pourra mettre en place ne serviront à rien. Donc soyons raisonnables, intelligents et travaillons tous pour le bien commun et surtout pour un avenir meilleur pour les générations futures.
Alors tout à l'heure, hors micro, hein, on parlait d'une guerre de l'eau. Thierry Jalco, est-ce que vous pensez que ça pourrait être le cas dans les Vosges et que c'est déjà le cas notamment ?
Bien sûr, on a donné carte blanche à Nestlé pour vendre de l'eau. C'est une aberration. L'eau, elle doit servir déjà à la population locale. Nestlé pompe allègrement dans les nappes et on ne sait même pas combien ils pompent parce que il y a aucune donnée qui sont recensées. Normalement, il y a des compteurs, donc Nestlé sait ce qu'ils pompent dans la nappe, mais nous on n'en sait rien en tant que habitants de du territoire, on ne sait pas et voilà. Et donc la nappe des grès du Trias est en train de diminuer vraiment fortement. Donc là, Nestlé a fait une annonce comme quoi ils allaient moins pomper, mais normalement, le préfet devait sortir un arrêté du pompage que Nestlé aurait droit à faire, mais il est toujours pas sorti. Enfin, on nage dans le flou et on fait toujours confiance aux sociétés multinationales comme Nestlé. Seulement, Nestlé, quand il est arrivé, qu'il a repris la société des eaux, il y avait 2700 employés à Vittel. Aujourd'hui, on y dit, ouais, c'est de l'emploi, mais aujourd'hui, il y a à peine 700 emplois sur le site de Nestlé. Donc, voilà, faut arrêter de jouer toujours avec la balance de l'emploi. Il y a des emplois aujourd'hui qu'on ne peut plus pousser. Voilà, il y a des emplois qui ne sont pas durables. Donc il faut arrêter avec cela et mettre en place des emplois durables. Et il y en a plein dans le développement des énergies renouvelables, dans une agriculture paysanne, voilà, qui demande énormément de main d'œuvre. Donc allons vers cette direction-là qui sera vraiment résiliente.
Jean-François Périnier, donc vous êtes venu tout droit de l'île d'Oléron. Vous êtes miticulteur, c'est-à-dire que vous élevez des moules. Aujourd'hui, vous êtes là pour tenir une conférence nommée « L'eau, un commun menacé ». Quel va être le but de votre conférence aujourd'hui ?
Moi, le but de mon intervention en tant qu'habitant une île et puis producteur de coquillages, donc paysan de la mer, c'est d'expliquer aux paysans de la terre qu'on a besoin d'eau aussi en mer, notamment sous l'épée de Damoclès du dérèglement climatique, parce que c'est l'eau douce qui alimente l'océan en sels nutritifs qui vont permettre le démarrage de la vie de l'océan. Et la vie de l'océan, c'est pas n'importe quoi, même si ça se voit pas, c'est la première biomasse végétale de la planète, le phytoplancton, c'est les deux tiers de l'oxygène produit, et c'est le premier puits de carbone, parce que nos coquillages, les coquilles qui sont fabriquées, mais les coraux aussi, les algues calcaires, et beaucoup de phytoplancton ont une composition à base de carbonate de calcium. Dans le mot carbonate, vous avez le mot carbone. Donc voilà, le premier puits de carbone de la planète, c'est l'océan. Et l'océan, c'est en même temps le moteur et le régulateur du climat. Donc s'il n'y a pas d'eau douce qui arrive et en quantité suffisante, et en régularité suffisante, et en qualité suffisante aussi, eh bien, on court à la catastrophe. On ne fait qu'emballer le dérèglement climatique. Et tous les signes qu'on voit, nous, en bord de mer, depuis, on va dire 25-30 ans, tous les feux sont clignote orange, mais orange vif, quoi, et ça clignote fort. C'est le gyrophare, quoi, c'est plus que de l'alerte. Et tout ce qu'on voit autour de nous comme solution proposée vont à l'encontre de ce qu'il faudrait faire.
Alors, quelles seraient au final les solutions à étudier pour qu'on puisse améliorer la situation ?
Je pense qu'on en a parlé tout à l'heure, l'agroécologie paysanne avec des sols vivants. Le sol, c'est l'éponge. Le sol, c'est ce qui fait le lien entre l'eau qui est dans l'atmosphère, qui nous tombe dessus sous forme de pluie, et la recharge des nappes phréatiques, qui est la ressource en eau qu'on offre aux générations futures. Ça, il faut bien en avoir conscience. Nous, voilà, l'eau qu'on a aujourd'hui, c'est parce que nos ancêtres nous ont légué cette eau-là. En moins de 30 ans, déjà, moi, chez moi, dans mon département, on ferme tous les ans à peu près une dizaine de points de captage d'eau potable à cause d'une pollution à l'atrazine, qui est un pesticide qui est interdit depuis 25 ans. Il a fallu 25 ans pour que les molécules percolent dans le sol et arrivent jusqu'à la nappe phréatique. Ces nappes phréatiques sont définitivement interdites à la consommation. On a moins de 2% de l'eau totale de la planète disponible pour la consommation humaine. Voilà, c'est une ressource rare pour l'être humain qui en a essentiellement, enfin, qui en a vitalement besoin, puisque nous sommes nous-mêmes composés de 75% d'eau. Nous ne sommes qu'une goutte d'eau de mer qui se promène sur deux pieds sur terre. Et tout ce que nous consommons, les légumes, les jus de fruits, les sirops, mais la viande, c'est de l'eau. C'est d'abord et avant tout de l'eau. C'est le premier aliment. Vous pouvez faire une grève de la faim et tenir plusieurs semaines. Je vous défie de faire une grève de la soif et de tenir plus que quelques jours et encore. Donc voilà, donc c'est l'élément essentiel à la vie et c'est bien pour ça que la conquête spatiale ne consiste qu'à trouver une planète où il y aurait de l'eau. Voilà, c'est peut-être qu'il y en a qui ont décidé que c'était foutu pour la Terre et qu'une petite élite allait pouvoir aller se promener sur une planète où il y a de l'eau. Bon, moi je leur laisse. Pourvu que tout cela s'en aille et qu'il nous laisse une planète où on arrivera encore à réparer les dégâts, mais on est vraiment très très mal parti.
Oui, malheureusement, Jean-François Périnier, c'est vrai que c'est une situation qui s'empire chaque année et c'est pas prêt de s'améliorer.
Tous les ans, on explose les scénarios les plus négatifs, enfin les plus pessimistes du GIEC, tous les ans. Moi, je me rappelle mon premier plateau télé en tant que secrétaire national à la Conf, c'était en 2019. C'était déjà la sécheresse du siècle et le ministre de l'Environnement de l'époque a ouvert les assises de l'eau en nous annonçant que pour la première fois en France, en 2019, c'est le nucléaire qui est passé dans l'ordre de priorité des usages de l'eau. Parce qu'il y a des ordres de priorité. Hein. D'abord, c'est l'eau potable au robinet. Ensuite, c'est la bonne continuité des milieux naturels. Or, on en est très loin. Moi, dans ma région, les quatre départements de l'ex-Poitou-Charentes, on sort tous les étés, quelle que soit la pluviométrie qui ait eu l'hiver ou le printemps, on sort tous les étés avec entre 1500 et 2000 km de rivières à sec. Ça parle, hein, ça parle. Donc voilà, la bonne continuité. Et ensuite, il y a les usages de l'eau dites économiques. Et dedans, il y a le nucléaire, il y a l'agroalimentaire, il y a l'EDF avec les barrages et il y a l'agriculture. Et même dans l'agriculture, il y a des priorités. Parce que les animaux sont des mammifères, constitués comme nous, à 75% d'eau. Donc d'abord, c'est l'abreuvement des animaux. Ensuite, c'est des cultures qui ne peuvent pas se passer d'eau. Mais alors là, on n'est pas sur les volumes dont on parle avec le maïs. C'est le maraîchage et l'arboriculture. Et ensuite, quand toutes ces conditions sont respectées, on pourrait éventuellement imaginer, si la ressource le permet, d'irriguer du maïs. Mais c'est pas le cas du tout.
Alors, en tant que chargé de mission de la commission de l'eau, hein, de la Confédération paysanne, que pensez-vous, vous, justement, de la situation actuelle dans les Vosges ?
Alors, les Vosges, je connais moins, mais je suis la problématique. La situation... Tout à l'heure, vous parliez de Vittel. Bon, bah, il y a la même problématique à Volvic. Hein. Thierry parlait que les Vosges, c'était le château d'eau de l'Est. L'Auvergne, c'était le château d'eau de la France. La Seine, la Loire prennent leur source en Auvergne. Et là, vous avez eu cet été, même en 2019, donc sur plusieurs étés de suite, des villages qui ont été ravitaillés par des camions-citernes sur le château d'eau de la France. Mais la situation est dramatiquement urgente, quoi. Rappelons quand même qu'en France, 90% de la production agricole, c'est une production pluviale, sans irrigation. C'est 10 à 12%. La production agricole qui est irriguée. Sauf que, par exemple, dans mon cas chez moi, à l'ouest de la France, pour le maïs, c'est une irrigation à une époque où il n'y a pas d'eau. C'est en plein été. Et chez vous, c'est de la neige de culture quand il n'y a plus assez de neige dans les stations de moyenne montagne, en plein dérèglement climatique. Et on va et encouragé par l'État et avec les grands discours de Macron sur sa volonté de faire quelque chose pour par rapport au dérèglement climatique. Mais de qui se fout-on, quoi? C'est... On ne peut plus entendre ce genre de paroles.
Alors Thierry Jacot, vous souhaitez réagir?
Donc oui, ce qu'on peut dire, c'est que tant qu'on ne changera pas de modèle économique, donc basé sur le capitalisme néolibéral aujourd'hui, donc sur une croissance éternelle, sur une compétitivité qu'on se fait, enfin voilà, toutes ces règles de l'OMC qui sont complètement absurdes, on n'arrivera à rien et on continuera la destruction. Donc c'est ça qu'il faut que tout le monde remette en question. On vit sur un acquis, mais cet acquis-là est faux aujourd'hui, on le sait. Enfin voilà, les rapports du GIEC sont de plus en plus alarmants, mais on en fait le constat. Mais dans les faits, on change rien, quoi. Sur le papier, tout est là, mais dans les faits, rien ne change. Donc c'est grave. Franchement, oui, moi j'en reviens pas, je me questionne tous les jours en me disant, mais vu les connaissances scientifiques qu'on a aujourd'hui, pourquoi on continue ce modèle-là qui est destructeur sur le plan social, environnemental et climatique, quoi, et sur la continuité de la vie de l'homme, parce que la nature, la terre, elle s'en remettra, mais c'est la vie de l'homme là qui est remise en question avec notre système de fonctionnement qui est à côté de la plaque, et on continue une politique qui date du passé, donc voyons l'avenir sous un autre angle. Voilà, c'est ça l'important aujourd'hui.
Oui, voir l'avenir sous un autre angle, Jean-François Parigne, au final.
Là, notre combat pour l'eau, c'est pas pour nous. C'est pas pour nous. C'est pour nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. C'est qu'est-ce qu'on va laisser en héritage à cette génération-là. Et donc, voilà. Et moi, je suis très content de... Enfin, très content, c'est pas bon signe, mais je suis particulièrement content de voir dans les mouvements qu'on a pour défendre un bien commun. C'est quand même un bien commun, l'eau. Un commun, on va dire, parce qu'un bien, déjà, on est dans la marchandisation. Un commun, et ben de voir toutes ces jeunes générations, Extinction Rébellion, Youth for Climate et tout, et qui sont là, et des familles entières avec des bébés devant les 1700 CRS à Sainte-Soline, il y a pas longtemps, il y avait des familles avec des bébés dans des landaus et tout, quoi. Voilà.
En tout cas, merci à vous deux. On le rappelle, donc Thierry Jacquot, vous êtes éleveur et producteur à Bleurville, secrétaire également de la Confédération paysanne des Vosges. Jean-François Périgné, vous êtes miticulteur sur l'île d'Oléron et vous avez fait le déplacement pour donner une conférence sur l'eau. Bonne assemblée générale, merci.